RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'UNESCO organise une académie mode sur la pollution par la fumée. Un praticien forestier encourage la participation de la communauté à la gestion des incendies. Le gouvernement est prêt à ratifier cet accord commercial international. L'Indonésie et la Mozambique mènent la deuxième série de négociations sur les APE. 8 pays représentatifs de la FAO étudient l'agriculture en Indonésie. AIFRC visite les victimes du séisme de Lombok pour assurer l'aide arrive. Les auditeurs, voici les journaux complets. L'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou UNESCO, a organisé l'Académie de gestion de la transformation sociale de l'UNESCO ou une académie MOS de l'UNESCO du 8 au 10 novembre 2018 à Pekanbaru, Riau. Irakli Hodeli, le spécialiste du programme pour l'unité des sciences sociales et humaines de l'UNESCO à Jakarta, a déclaré que la réunion avait pour but de discuter du traitement du smog. Dans son discours à l'ouverture de l'Académie MOS de l'UNESCO jeudi à Pekanbaru, Riau, Irakli Hodeli a déclaré que ce forum était une arène permettant aux différentes parties concernées de contribuer en partageant les expériences liées aux efforts pour faire face aux dangers de la brume. La province de Riau a été choisie pour accueillir la réunion car elle est considérée comme l'une des zones plus touchées par la catastrophe sociale et environnementale. Selon Irakli, la réunion de 3 jours devrait également produire des recommandations et une contribution pour que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour lutter contre le smog.
The idea here is really to take advantage of so many preeminent experts.
L'idée est de tirer parti des experts, spécialistes et praticiens pendant les 2 jours pour échanger des points de vue, apprendre les uns des autres sur ce qu'il est possible de faire pour lutter contre le problème important de la pollution de l'air par la brume. Le thème de l'Académie de gestion de la transformation sociale de l'UNESCO ou l'Académie MOS de l'UNESCO à Pekanbaru est « Bioéthique et sciences durables en action contre la pollution par le brouillard de fumée ». Irakli Hodeli a expliqué que l'aspect bioéthique était abordé lors de l'adoption de la déclaration de principes éthiques concernant les relations avec les changements climatiques en 2017. Selon lui, la déclaration soulignait l'importance d'utiliser la science comme principe éthique dans toutes les décisions prises par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les changements climatiques.
All these articles, all these principles, all these concepts.
Tous les articles, principes et concepts, après divers efforts pour combiner dans une déclaration internationale, ne produira rien si nous ne faisons rien. Et si nous ne trouvons pas le moyen de transmettre la déclaration au niveau gouvernemental central et régional et de la traduire en actions concrètes. Héraclée espère que l'approche bioéthique dans une prise de décision au niveau gouvernemental peut aider à concilier les divers intérêts en jeu dans chaque problème. Le praticien forestier de l'Institut agricole de Bogor, Bambang Saharjo, vendredi à Pekanbaru, a encouragé le gouvernement à impliquer la communauté dans la gestion des effets des incendies de forêt et de la brume qui se produisent souvent à Sumatra. La communauté était consciente de la nécessité de réduire les activités de brûlage des forêts pour ouvrir des terres, mais qu'elle devait avoir l'attention pour que ces changements puissent être faits de manière durable. Le gouvernement indonésien doit également prendre des dispositions liées à la productivité et partager les marchés des produits résultant du défrichement sans brûlage. Cela est l'effort pour assurer que ce qui est fait par la communauté puisse être continué à l'avenir. Le désir de la communauté d'échanger pour le mieux doit être apprécié et continuer durablement. La mise en œuvre des activités devrait être effectuée sur la base de règles scientifiques et conformément aux règles applicables et non seulement pour donner satisfaction momentanément. Le problème des incendies doit être résolu avec la participation de toutes les parties et ne pas alourdir la communauté. Selon Bambang Saharjo, le gouvernement indonésien devrait également renforcer la confiance dans la communauté afin d'accroître la sensibilisation aux efforts de contrôle des incendies. Cela peut être fait en facilitant la MPA ou Community of Fire Care avec le renforcement des capacités, des installations et une infrastructure de contrôle qui est plus adéquate. Il a également encouragé que l'utilisation des tourbières pour les activités agricoles, à l'initiative de la communauté, est soutenue par le gouvernement pour garantir le développement et la commercialisation des produits. Le gouvernement indonésien est prêt à achever le processus de ratification de cet accord commercial international qui ont été retardés car ils doivent passer par des procédures de rapport avec le Parlement. Cette décision est prise compte tenu de l'importance de la signature des accords. L'agence de presse Antara a rapporté que le ministre indonésien de la coordination des affaires économiques, Darmin Nasution, après avoir présidé une réunion de coordination visant à finaliser la ratification de l'accord commercial international à Jakarta, mercredi 7 novembre, a expliqué que le processus de ratification se déroulerait conformément à loi numéro 7/2014, en particulier l'article concernant la ratification des accords commerciaux internationaux est fixée par la publication du règlement présidentiel. Le gouvernement décidera également d'adopter cette politique car la ratification de ces 7 accords internationaux est incertaine après la soumission progressive de ces 7 accords internationaux au Parlement il y a plus de 60 jours. La délégation indonésienne, présidée par le directeur des négociations bilatérales du ministre du Commerce, Nimade Ayumartini, menait une deuxième série de négociations sur un accord commercial préférentiel jeudi 8 novembre à Maputo, au Mozambique. Elle a déclaré jeudi à la Voix de l'Indonésie que la négociation était la suite de la première négociation qui a été achevée en juin. Elle souhaite que cette deuxième réunion puisse résoudre les questions de fond et à la fin de l'année, les acteurs économiques pourraient les utiliser immédiatement. Cet accord réduira ou supprimera les droits de douane à l'importation pour un certain nombre de produits dans l'intérêt des deux pays.
Kita memilihnya bukan FTA, ya, bukan Free Trade Agreement atau bukan CEPA.
Nous ne choisissons pas l'accord de libre-échange ou l'accord global de partenariat économique, mais nous avons choisi l'accord commercial préférentiel. Cela signifie que seuls quelques produits pour lesquels nous accordons un traitement préférentiel. Pourquoi? Pour accélérer, il faut aussi être réaliste. Donc, si le pays a une nouvelle relation, mais son potentiel existe, nous le faisons comme ça. Avec le Mozambique, nous avons décidé 100 produits, nommés les lignes tarifaires, donc c'est plus rapide. Ainsi, après avoir négocié deux fois, il y a eu un pourboire ou une bonne perspective à terminer. Nima de Martini a également expliqué que l'augmentation de l'accès au marché des zones non traditionnelles, en particulier de l'Afrique, était l'un des objectifs de la politique du président Jokowi en matière de promotion des exportations nationales. Le marché potentiel de Mozambique est grand car il peut servir de plaque tournante pour l'entrée des produits indonésiens dans la région africaine, en particulier dans la région sud-africaine. Il existe encore de nombreux produits potentiels qui n'ont pas été explorés au maximum. En outre, ce pays produit des matières premières nécessaires aux industries indonésiennes. Les produits potentiels de l'Indonésie pouvant être exportés au Mozambique sont le CPO et ses dérivés, l'acide gras et le savon. L'exportation de savon d'Indonésie est très populaire dans les pays africains. Du 31 octobre au 3 novembre, des représentants permanents de 8 pays membres de l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont rendu visite à plusieurs régions d'Indonésie afin d'étudier les systèmes d'exploitation agricole. Dans une déclaration écrite de la FAO, reçue par l'agence de presse Antara à Jakarta, a informé mercredi que les délégués des États-Unis, d'Algérie, d'Australie, du Chili, de Jordanie, du Nigeria, de Norvège et de Thaïlande se sont rendus au centre de Java et à Bali pour constater l'appui de la FAO envers les efforts du gouvernement indonésien pour améliorer le développement agricole. Le représentant de la FAO en Indonésie, Stephen Rudgard, a déclaré que les délégués se sont rendus dans le centre de Java pour assister à la démonstration de minas padi dans le district de Sukoharjo, qui est la coopération entre FAO avec le ministre des Affaires maritimes et de la pêche et le gouvernement pour développer des pratiques innovantes. Après Sukoharjo, la délégation s'est rendue à Yogyakarta pour étudier le programme du ministère de l'Agriculture soutenu par la FAO et l'Agence américaine de développement international pour détecter et éradiquer les épidémies de volailles menaçant également la population humaine. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est rendue sur l'île de Lombok, dans l'ouest de Nusa Tenggara, pour vérifier l'état des victimes du séisme tout en veillant à ce que l'aide distribuée soit reçue en termes réels. Le secrétaire général de l'IFCR, El Hadi Hashi, en marge de sa visite au village de Pandua, dans le nord de la région de Lombok, a déclaré jeudi que son arrivée visait à soutenir la Croix-Rouge indonésienne à Ntb et voir l'état de la population de Lombok affectée par la catastrophe. Selon El Hadj, les victimes du séisme ont des besoins différents. Par conséquent, une visite sur le terrain fournira des informations réelles sur les conditions et les besoins au cours de la période de récupération après le séisme. L'IFRC a fourni le soutien sous forme d'aide du développement de l'abri et de logements temporaires pour les victimes du séisme sur l'île de Lombok. une assistance qui est fournie sous forme des installations sanitaires appropriées, la distribution de l'eau propre à l'aide de wagons citernes, PMI, des services de santé et des services sociaux pour les enfants touchés par le séisme, ainsi qu'une aide au relèvement économique des communautés. Mes auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le changement politique de l'Australie dans le Pacifique. À l'époque du gouvernement du Premier ministre Scott Morrison, l'Australie semblait être plus ouverte avec ses voisins dans les pays du Pacifique que le régime précédent. L'une des raisons qui a motivé cette évolution est l'attitude de l'opposition australienne qui est plus proactive avec la région du Pacifique. Ce qui est fait par le gouvernement Scott Morrison de se rapprocher de la région du Pacifique sud-ouest et de verser 2 milliards de dollars australiens, soit 20 000 trillions roupies. Si on calcule les profits et les pertes, l'Australie n'obtient pas de gros avantages financiers en investissant cette somme. Mais Scott Morrison, dans un discours prononcé jeudi le 8 novembre, l'Australie a l'intérêt éternel du pays aux régions stratégiquement sûres, économiquement stables et politiquement souveraines. Ces trois choses deviennent la pensée de l'Australie depuis que la Chine a commencé à s'approcher de cette région. La Chine est intéressée à cela. Avec l'entrée de l'influence chinoise dans la région, le soutien à Taïwan diminue également. Plusieurs pays du Pacifique soutiennent Taïwan. Taïwan, qui ne veut pas perdre ses partisans pacifiques, est en concurrence avec la Chine après que Taïwan ait perdu le soutien de Fidji, qui a choisi d'ouvrir la porte à ses relations avec Taipei et de resserrer ses relations avec la Chine. Mais cette influence a rendu l'Australie inconfortable. L'opposition australienne, qui est préoccupée par le renforcement de l'influence, avait préparé d'abord une proposition visant à renforcer l'influence australienne. Au lieu de verser immédiatement des fonds dans la région, il s'avère que l'Australie et la Chine elles-mêmes sont confrontées à des problèmes d'investissement. Le secrétaire au Trésor, Josh Frydenberg, a déclaré qu'il bloquerait les efforts de la Chine de prendre en charge les affaires de gazoduc en Australie d'un montant de 13 milliards de dollars américains. Il y a la préoccupation de propriétés étrangères là-bas. En outre, l'Australie interdit également la participation de Huawei à la construction du réseau de 5G pour des raisons de sécurité nationale. La rivalité des deux pays de gagner l'influence de la région et de maintenir le Pacifique qui est pacifique. Nous portons une attention à ce que les deux pays vont gagner la sympathie des pays du Pacifique d'une manière élégante. La réponse pourrait être au sommet de la PEC la semaine prochaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 9 novembre. On commence par le 9 novembre 1953, le Cambodge est indépendant de la France. Le royaume du Cambodge est un pays sous la forme d'une monarchie constitutionnelle en Asie du Sud-Est. Ce pays est le successeur de l'Empire Khmer qui régnait autrefois sur toute la péninsule d'Indochine entre le XIe et le XIVe siècle. Avant l'indépendance de Cambodge, l'État unitaire de la République d'Indonésie a beaucoup aidé ce pays. En 1863, le roi Norodom, nommé par Thaï, se réfugie en France. En 1867, le roi Norodom signa un accord avec le français qui donnait le droit de contrôle de Provence-Batamban et Siem Reap étant la partie de la Thaïlande. Enfin, ces deux régions ont été cédées au Cambodge en 1906 sur un accord frontalier conclu entre la France et la Thaïlande. La France a fait du Cambodge un protectorat de 1863 à 1953 en tant que région de la colonie d'Indochine. Après l'occupation japonaise dans les années 1940, le Cambodge obtenait son indépendance de la France le 9 novembre 1953. Le Cambodge devenait un royaume constitutionnel sous la direction du roi Norodom Sihanouk. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin a été ouvert par le gouvernement est-allemand. Le mur de Berlin est un mur de séparation construit par la République démocratique allemande et l'Allemagne Est, qui sépare Berlin-Ouest et Berlin-Est, ainsi que d'autres régions de l'Allemagne Est. Ce mur a été construit le 13 août 1961. En 1989, la région du bloc de l'Est a connu de profonds changements politiques liés à la libéralisation du système d'autorité dans le bloc de l'Est et à la réduction de l'influence de l'Union soviétique dans des pays comme la Pologne et la Hongrie. Après plusieurs semaines de troubles civils, le gouvernement est-allemand a annoncé le 9 novembre 1989 que les citoyens de l'Allemagne Est pourraient se rendre en Allemagne Ouest et à Berlin-Ouest. Ainsi, une foule d'Allemands Est ont traversé et escaladé le mur suivi par les Allemands Ouest de l'autre côté pour célébrer l'atmosphère de liberté. Quelques semaines plus tard, les polis publics et les chasseurs de souvenirs ont finalement fissuré des parties du mur. La plupart des murs ont également été détruits par le gouvernement avec des équipements lourds. La chute du mur de Berlin a finalement ouvert la voie à la formation de la réunification allemande le 3 octobre 1990. Le 9 novembre 1989, Saro Edi Wibowo, commandant du RPKAD, aujourd'hui Kopassus, est décédé. Le lieutenant-général de l'armée retraité, Saro Edi Wibowo, est une figure militaire indonésienne. Il est le père de Kristiani Herawati, la première dame de la République d'Indonésie, épouse du sixième président de la République d'Indonésie, Susilo Bambang Yudhoyono. Il a joué un rôle très important dans la répression de la rébellion du mouvement du 30 septembre en sa qualité de commandant du RPKAD, ou appelé Kopassus maintenant. En outre, il a également été président du BP7 Central, ambassadeur d'Indonésie en Corée Sud et gouverneur d'Akabri. Saro Edi Wibowo est décédé à Jakarta le 9 novembre 1989 à l'âge de 64 ans. Les auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'exposition de l'industrie de défense est organisée à nouveau. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a ouvert une exposition internationale sur les technologies de l'industrie de la défense à l'exposition et au Forum de la défense indonésienne 2018 à Diexpo Kemayoran dans le centre de Jakarta mercredi. Lors de cette exposition, un certain nombre de produits de l'industrie de la défense ont été exposés, tels que des fossiles et des drones. Des dizaines de pays et d'industries internationales de la défense ont pris part à cette exposition. Youssouf Kalla, comme cité par Antara, a déclaré que l'exposition internationale apportait de nouvelles connaissances à l'Indonésie et aux autres pays participants pour leur permettre de comprendre le développement du principal système d'armement. Youssouf Kalla a déclaré que la résilience et la sécurité étaient des éléments importants qui devaient être possédés par un pays, si bien que les forces armées étaient donc obligées de protéger des deux éléments, parce que l'État a besoin de défense et de sécurité, il doit avoir des forces armées. Parce qu'il a une armée, il doit avoir une arme, il doit avoir l'équipement préparé pour cela, a déclaré Youssouf Kalla. La 8e organisation d'Indo-Défense cette année est également une occasion pour la diplomatie de défense indonésienne de renforcer la paix et la prospérité dans le monde. Le nombre de participants qui participent à cette exposition est 857 entreprises de l'industrie de défense de 60 pays comme l'Australie, la Grèce, la Slovaquie, l'Arabie Saoudite et le Japon. Environ de 30 pays sont présents en tant que pays du pavillon, y compris l'Indonésie. Les entreprises étrangères ayant également participé à Indo-Défense 2018 sont entre autres Rheinmetall, Nexter, Reuter, l'industrie aérospatiale turque, Insurance, Polish Armament Group et SVOS. L'exposition sur les équipements de défense s'est déroulée du mercredi au samedi à JXpo Kemayoran à Jakarta. Pendant ce temps, le ministre indonésien de la Défense, Riamiza Triakudu, a déclaré qu'une dizaine de délégués au niveau ministériel avaient assisté à cette activité. Il espère que cet événement deviendra un événement promotionnel pour l'industrie de la défense en Indonésie. Riamiza Triakudu est fier d'organiser cette exposition biannuelle. L'Indonésie Defense Expo and Forum est le plus grand salon de l'industrie de la défense en Asie du Sud-Est. Cette exposition est même inscrite au calendrier des expositions mondiales de la défense. L'organisation de cette exposition sur l'industrie de la défense coïncidant avec l'exposition aérospatiale, celle d'hélicoptères et une exposition maritime. À cette occasion, 14 sociétés regroupées dans l'entreprise appartenant à l'État de l'industrie stratégique ou BUMNIS de l'Indonésie ont signé un protocole d'accord. Divers plans stratégiques sont programmés par des entreprises appartenant à l'État avec de diverses institutions. Le coordinateur de BUMNIS Indonesia, Bayu Caksono, a déclaré que le protocole d'accord signé par les dirigeants de BUMNIS Indonesia et ses partenaires commerciaux constituait la première étape pour améliorer la synergie en optimisant les ressources de chaque partie dans le contexte de la synergie d'entreprise. Le plan de synergie a débuté avec la signature du protocole d'entente entre le groupe de défense nationale et l'industrie de haute technologie NDHI avec l'armée nationale indonésienne TNI. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir chers auditeurs, on se rencontre dans la rubrique du magazine Culturel. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par www.voynews.id. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la tradition de Roa Segare. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, la majorité des Indonésiens sont agriculteurs et pêcheurs. Par conséquent, c'est pas étonnant s'il existe beaucoup de traditions étroitement liées à ce métier. Par exemple, la tradition des rois Segaré qui est toujours détenue par les habitants de Lombok. Cette tradition est une forme de gratitude pour la communauté de pêcheurs du village de Kuranji Dalang à Allah ou Dieu pour ses produits de la mer abondants. Cette tradition a lieu tous les mois Muharram dans le calendrier islamique. Cette année, cet événement a eu lieu à la plage de Kuranji, au village de Kuranji Dalang, au district de Labu Api, à la région de Lombok de l'Ouest. Chers auditeurs, le 4 novembre, des centaines de communautés de pêcheurs de Labu Api ont envahi la plage de Kuranji pour mettre en œuvre la tradition des rois Segaré. Ils continuent à pratiquer cette tradition jusqu'à maintenant comme une forme de gratitude parce qu'ils ont été tenus à l'écart de toutes sortes de calamités. On commence la procession des rois Segaré par la lecture de Barzanji, de Selakaran, de Zikir et la prière à Dieu. Puis on continue par la prière pour Dulang Penamat ou offrande qui sera emmenée à la plage. Dulang est ensuite emporté dans la mer. Et ce processus est un symbole de gratitude pour les communautés de pêcheurs sur des produits marins abondants. Chers auditeurs, dans la tradition des rois Segaré, certaines dispositions coutumières doivent être respectées. Par exemple, le pêcheur ne peut pas pêcher pendant 3 jours après le rituel des rois Segaré. Cela avait pour but de donner à la mer le temps de se mettre en mouvement. Après tout ce temps, les résultats ont été pris par les pêcheurs. Selon la communauté locale, s'il enfreigne les règles, le pêcheur subirait un désastre. Après 3 jours, les nouveaux pêcheurs peuvent naviguer avec nouvel espoir et enthousiasme. Chers auditeurs, après cette procession, on présente à la communauté et aux invités le repas prié plus tôt. Il perpétue également la tradition de begibung ou manger ensemble dans un grand plateau. La procession de manger ensemble est une manifestation de solidarité et de parenté des pêcheurs sur la plage de Kuranji. La tradition des rois Segaré n'est plus seulement une tradition. On continue à faire et à développer cette tradition pour devenir l'une des icônes du tourisme à Lombok de l'Ouest. Voilà, chers auditeurs, c'est tout l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui qui vous présente la tradition des rois Segaré. On se rencontrera demain avec d'autres sujets intéressants. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre, des étudiants de l'UGM remportent un concours de design d'entreprise verte à Séoul. Restez toujours avec nous sur www.voynews.id. Des étudiants de l'Université Gadjah Mada, UGM, a remporté le concours Greenpreneur 2018 organisé par le Global Green Growth Institute au GGI à Séoul, en Corée du Sud, du 29 octobre au 22 novembre 2018. Les cinq étudiants ont réussi à obtenir un prix de financement de 5 000 $ américains après avoir présenté leur design d'entreprise respectueuse de l'environnement aux représentants de GGI. Outre l'équipe indonésienne, d'autres équipes qui se sont échappées venaient d'Ouganda, du Cambodge et du Maroc. Après cela, les équipes sont invitées en Corée pour présenter leurs idées d'affaires devant les représentants de GGI. Johannes Susanto, l'un des membres de l'équipe, a déclaré que parmi les participants inscrits, 10 finalistes ont été sélectionnés et 4 équipes d'entre eux ont été invitées à faire des représentations d'affaires à Séoul. Dans le cadre de ce concours, l'équipe UGM a conçu les affaires de production de pesticides biologiques. Le plan d'affaires a été préparé par Johannes avec Jonathan Ken Sorensen, Muhammad Hafiz Mahdi, Albertus Alfero Tangkilisan, Nathalie Gupita Abirama et le superviseur Wiratni Budianto. Il présente un plan d'entreprise sur la production de pesticides organiques qui résistent mieux à la pluie que les pesticides ordinaires. La matière première de ce pesticide est l'extrait de la distillation. En plus d'obtenir un capital d'affaires, les participants à ce concours ont également eu l'occasion d'apprendre diverses stratégies pour développer leurs affaires par le biais d'activités de mentorat menées par les experts sélectionnés par GGI. Serviteur, le concours de conception d'affaires respectueuses de l'environnement est un peu différent car il y a le mentorat pendant 10 semaines. Ce mentorat de GGI fournit des connaissances sur la manière de commercialiser et de commencer une entreprise. Chaque semaine, il y a aussi des devoirs qui doivent être collectés. Cette session est sous la forme d'études de marché, de planification financière et d'analyse des impacts socio-économiques. Avec des connaissances et du capital de ce concours, les étudiants prépareront ensuite différentes étapes pour démarrer et développer leurs affaires susceptibles de générer des avantages économiques tout en ayant un impact positif sur la durabilité environnementale. Secrétaire, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous. À bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de l'extrémité orientale de l'Indonésie, précisément de la province de Papouasie. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie, que vous allez écouter à la diffusion en direct de www.voinews.id à 3325 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Pour ouvrir l'édition cette fois-ci, je vous présente une chanson intitulée Wampasi Wambarek, chantée par le trio Ambisi. Cette chanson est une chanson typique de Biak, l'un des tribus de Papouasie qui habite au district de Biak Numfor. Chers auditeurs, voici la chanson Wampasi Wambarek. Bonne écoute! Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Papouasie dont le titre est Wampasi Wambarek. Cette chanson raconte d'errer. Il y a des moments pour aller errer et il y a des moments pour rentrer chez eux. Cette histoire de vie est illustrée par des ségoules sur les paroles de cette chanson. Elle a un tempo moyen dont la musique est agréable à écouter. Chers auditeurs, l'autre chanson régionale de Papouasie que nous allons écouter s'intitule Bin Yedi. La chanson chantée par Anafre, rencontre de quelqu'un qui a été déçu par son amoureux. Mais à cause de l'amour, au lieu de haïr ou de maudire son amant, il a prié pour que Dieu accompagne toujours son amant. Bon, écoutons la chanson intitulée « Bin Yedi ».
Malam sepi begini, ku duduk dalam keheningan. Terpintas wajahmu terbayang, tak kusangka hatiku menangis. Fazes maya cara que suaru será ina dinedi ya suara o kaku.
Yeah.
auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Bin Yedi. Cette chanson est une chanson de la communauté de Biak, Papouasie. Comme les paroles tristes, la musique de cette chanson est lente. Chers auditeurs, pour terminer cette édition, je vous donne la chanson régionale de Papouasie dont le titre est Raciné ma raciné. La chanson chantée par le trio Ambici a été créée par Wem Moesido. Cette chanson raconte de la vie des habitants de Manokwari. Les auditeurs, merci pour votre fidélité d'écouter la voix de l'Indonésie. J'espère que les chansons d'aujourd'hui enrichiront vos connaissances sur les chansons indonésiennes. Je dis au revoir, bonne écoute.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french. Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.